Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
مرحبا بالجميع، أهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج مغاربة العالم. وحلقة اليوم تأخذنا إلى دنيا الثقافة، إلى عالم الكتب، مع سيدة لها الكثير من الإسهامات في هذا المجال. والحقيقة على أن في سيرتها الذاتية هي توقيت البرنامج لا يكفي لسرد هذه السيرة الذاتية، ولكن سأحاول أن أذكر على الأقل محطات كبرى مرة بها. ولدت بفرنسا وتخرجت من الجامعة من الصحة المهنية، استثمرت لعدة سنوات في عالم الثقافة بين فرنسا والمغرب، وفي عام 2021 حصلت على لقب السفيرة الكبرى للثقافة والفنون لاستثمارها في مجال الثقافة الدولية. عام 2020 أصبحت عضوا في لجنة تحكيم الجائزة الأدبية المعروفة دايور إديسي، وفيما بعد نشرت روايتها تمرد الأسرار عام 2020. تعاونت أيضا مع كثير من الأسماء المغربية ببلدها الأصل المغرب، تعاونت في عمل المغرب ما نخاف منه تحت إخراج عبد الحق نجيب ونور الدين بوصفيحة، وتم اختيارها وظهورها في الكتاب الفني زمن المرأة الحرة لعبد الحق نجيب لتظهر إلى جانب 150 امرأة ملهمة في المغرب وفي المهجر. أصدرت عام 2021 ديوان شعر بعنوان فخونيزي. أسعد باستضافة الكاتبة المغربية رشيدة بلقاسم في مغاربة العالم، فأهلا بي وبكم عندها.
ميديا فرحان عياش مغاربة العالم.
أهلا بك سيدة رشيدة بلقاسم، سعداء بلقائك.
أهلا أهلا أهلا، ميرسي بور لانفيتاسيون.
في الحقيقة نحن من نشكرك، وبالتأكيد نشكر لك قبول دعوة لتكون ضيفة البرنامج. وسؤالي لك أنت الكاتبة، هل للكاتبة التي تربت في أرض المهجر كتابة مختلفة عن الكاتب في بلده الأم؟
C'est toujours très important pour moi pour passer à la radio marocaine. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour cette belle présentation qui est ma biographie. C'est très important pour moi d'échanger là-dessus. Effectivement, le livre au Maroc et le livre en France prend une dimension différente. Il a été toujours très important pour moi d'allier l'écriture et d'allier l'écriture entre ces deux pays. Et comme vous l'avez bien dit, le Maroc, c'est mon pays d'origine. C'est là où j'ai commencé mon premier livre, comme vous l'avez dit, La révolte des secrets avec Abd el-Haq Najib. Il était important pour moi de commencer au Maroc et de continuer mes activités culturelles en France, tout en continuant à investir dans les deux pays.
جميل أنك ذكرتي كتابك تمرد الأسرار، وهي رواية صدرت لك عام 2020. فعلى ما تتمرد رشيدة بالقاسم؟
Et comme vous l'avez dit, c'est une révolution, et c'est pas vraiment une révolution, c'est surtout une prise de conscience sur le silence des femmes, que ce soit le silence des femmes au Maroc, le silence des femmes en France. C'est la révolte des secrets. Je pars du principe que dans nos familles, dans nos traditions, on est voué au secret. Et les femmes, parce qu'elles ont une responsabilité et une charge mentale très importante, se condamnent au silence et elles avancent. Et dans ce roman, il a été important de revenir sur des terres natales, comme vous l'avez dit, de revenir sur des terres berbères et sur la transmission transgénérationnelle.
للتذكير أنت أيضا رشيدة بالقاسم أصولك أمازيغية وتتحدثين الأمازيغية بطلاقة.
Alors pour moi je parle la langue berbère parce que c'est ma langue maternelle. Je la parle, je la comprends et elle m'habite, mais la langue française et la langue arabe de la même manière, parce que en fait je vais sur des thématiques qui sont humanistes, sont des thématiques qui rejoignent toutes les langues, mais il est vrai, c'est une langue avec laquelle je fonctionne depuis toujours avec toute ma famille.
في البيت في البيت يتحدثون الأمازيغية.
Exactement.
في البيت في فرنسا.
Exactement. Oui oui absolument par mes parents et quand j'allais au Maroc avec toute ma famille et c'est une langue c'est ma première langue en fait c'est à dire que la langue française m'a été apprise à travers l'école mais ma langue celle avec laquelle je pense celle avec laquelle aussi, je réfléchis parfois, c'est la langue berbère. Mais ce que je veux dire aussi, quand vous venez par rapport à la langue maternelle, pour vous, c'est important, c'est cette histoire de transmission.
Sahih.
La transmission s'est faite par les parents, oui, mais elle s'est faite aussi par mon entourage familial. Et elle s'est faite intrinsèquement. C'est-à-dire que pour moi, la mazérité a un rapport avec la nature. Et comme je suis une personne qui est très en lien avec les sens, comme beaucoup, mais en lien avec la nature, il était important pour moi, dans la révolte des secrets, de revenir sur cette langue. Pas pour la fermer, pas pour l'isoler, pas pour dire que c'est une langue à part, pour dire que c'est une langue qui fait partie de l'existence de certaines personnes au Maroc et qu'elle conditionne la vie au même titre que l'arabe et le français.
وهذا ما 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 يعطي للمغرب سحره وجماله هو تنوعه الثقافي وتنوعه اللغوي. هذا التنوع وهذه الاختلافات حسب المناطق وحسب الجهات هي ما تصنع هذه الفسيفساء للمملكة من شمالها إلى جنوبها بشرقها ووسطها. ما أعجبني فيك رشيدة بالقاسم هو أنك أنت لم تتربين في المغرب، أنت تربيتي في بيت على أرض فرنسية وفي بيتهم الصغير لهم وطنهم المغرب الصغير يتحدثون بلغتهم الأمازيغية ويوصلون هذا الرابط ما بين جيل إلى جيل. هذا ما أثار دهشتي وأثار إعجابي. هل الوالد والوالدة كانوا يعضان على أن هذه اللغة يجب أن تستمر عبر الأجيال في البيت؟
C'est presque naturel, c'est-à-dire que comme vous l'avez bien expliqué, c'est une langue comme la Darija, et d'ailleurs c'est une langue qui est reconnue dans le royaume un peu partout, maintenant elle rentre dans les administrations, mais mes parents n'ont pas réfléchi à cette éducation-là. En fait, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est quelque chose de spontané et naturel, c'est-à-dire que ma mère, pour elle, elle n'a pas réfléchi son éducation et sa transmission de langue, elle a juste été elle. Vous savez... grandir dans une famille qui est, entre guillemets, pas déracinée, mais qui a changé de pays, c'est compliqué. C'est compliqué et en même temps, c'est simple. C'est simple parce qu'on arrive dans un nouveau pays avec une autre culture, avec une culture différente, avec des transmissions qui se font de fait. Et j'ai jamais senti d'ambivalence entre tout ça. Pour moi, il a été important pour moi de continuer à être ce que je suis, une femme d'origine berbère marocaine, parler la Darija, parler le marocain au même titre que je parle le français. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu d'antagoniste, ça ne s'est jamais opposé. Ça a été pour moi des choses qui s'ajoutent. C'est comme vous parlez plusieurs langues, et ces langues vous ont à la fois enrichi, elles s'ajoutent. Et en revanche, là où vous, peut-être vous ouvrez le débat sur la nécessité de transmission. J'ai eu cette chance d'avoir eu cette transmission.
هل تستمر إلى اليوم؟ يعني نفس العملية التي قام بها الوالدان في نقل الهوية واللغة إلى رشيدة بالقاسم، هل تتواصل عبر رشيدة بالقاسم أيضا إلى أبنائها؟
Elle se réfléchit, mais elle doit continuer. C'est-à-dire, il faut savoir où sont nos priorités. C'est-à-dire que si moi ma priorité c'est de continuer à transmettre ce que je suis, oui. En fait, si vous voulez, il ne faut pas perdre certains éléments, génération en génération, pas pour enfermer une identité, mais pour l'ouvrir. Donc oui, pour moi, il est nécessaire que mes enfants, puisque je suis maman, aient la connaissance de la berbérité et de l'arabité et de la langue française avec le même équilibre, parce que pour moi, elle fait partie importante de la personnalité, elle nourrit notre inconscient, et comme vous l'avez dit à travers mon portrait, elle a nourri aussi mon écriture. Elle la nourrit différemment et elle donne un relief à mon écriture qui est complètement différente.
تمام. طيب هذا الأمر موضوع اللغات هو موضوع يثار في كل النقاشات سواء بين النخبة المثقفة أو غير المثقفة والانفتاح على اللغات حول العالم يعني هناك من يقول لك مثلا لغاتنا الوطنية ولغاتنا القومية يجب تمجيدها والاكتفاء بها وبين من ينظر ويقول لك مثلا نعم للغاتنا الوطنية ولكن الانفتاح على اللغات العالمية هو أمر مطلوب ومطلوب جدا نحن نعيش في القرية الصغيرة نحتاج إلى لغات عالمية للتواصل مع هذا الآخر اليوم من أجل أن تسود تجارتك وأن تفتح آفاق اقتصادك يجب أن تمتلك مهارات لغات أجنبية لعل أولها الإنجليزية فما رأيك أنت في نقاش اللغة؟
Je sors de ce débat. Il est important de sortir de ces débats linguistiques. C'est-à-dire, il y a le choix d'un État de légiférer sur une langue, mais le quotidien des hommes dépasse les débats et dépasse les décisions. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir la vie et la société comme des familles. Et dans chaque famille, dans chaque société, c'est une agglomération de familles qui discutent. Oui, il est important de réfléchir sur une langue commune, et oui, il y a des langues qui prennent un peu, entre guillemets, le pouvoir, c'est-à-dire que quand on prend la langue, comme vous dites, l'anglais, l'espagnol, en Asie, il y a des langues qui prennent comme le chinois, il y a la langue russe, il y a la langue arabe, donc toutes ces langues sont des langues qui un peu unifient certaines, ça simplifie des échanges, mais il ne faut jamais oublier que dans des États et au-delà du Maroc, le dialecte et la linguistique de certaines populations perdurent. Et il est important que dans le domaine culturel, en tant qu'auteur et en tant que quel que soit le métier, mais surtout de le domaine culturel et artistique, d'être un peu garant et veilleur de cette langue. Pourquoi ? Parce qu'elle contient une dimension beaucoup plus grande que des langues qu'on a stérilisées avec le temps.
أنتي لديك الآن نظرة بما أنك امرأة تعيشين في بلاد المهجر لديك نظرة مختلفة عن المرأة في العالم العربي. أنتي رأيت المرأة في مجتمعات أخرى خارج منطقتنا العربية. هل في كل المجتمعات الإنسانية هناك صمت؟
Oui, c'est vrai que en tant que femme allant dans des sphères en France, en Europe, dans des pays qui sont complètement différents, il est important de représenter une partie de ce que nous sommes. Mais je pars du principe que, en tant que femme, notre humanité nous dépasse. C'est-à-dire que pour moi, comme je vous l'ai dit juste avant cette interview, en tant que femme, nous sommes insufflés par des injonctions et par des aspirations qui concernent toutes les femmes. Et que oui, je parle en tant que femme franco-marocaine, mais pas que. Il est important d'ouvrir. Moi, je suis toujours en train de dire que lorsque j'écris pour moi, mais j'écris pour les autres. Et les autres n'ont pas de nationalité, n'ont pas de frontières. Alors oui, mon écriture, elle peut parler à certaines femmes qui correspondent un peu à ma sensibilité, mais pas toujours. Donc, il est important aujourd'hui qu'une femme franco-marocaine investisse tous les lieux de culture, que ce soit en France, à l'étranger, et qu'on soit représenté, qu'on soit représentatif de l'actualité et du monde d'aujourd'hui. Mm-hmm. Il n'y a pas de porte qui se ferme, mais il est important qu'on aille investir ces lieux-là, parce que notre particularité de femme marocaine est une valeur ajoutée. Mon amazérité est une valeur ajoutée, au même titre que mon côté français, bien sûr.
تمام. طيب هذه المرأة المغربية اليوم كيف تنظرين أنت إلى تطورها؟
Alors la place de la femme marocaine, elle a évolué beaucoup ces dernières années. Elle a subi énormément de changements. Il y a des lois qui ont légiféré certaines conditions, notamment les conditions liées au mariage. Mais il est important de réfléchir à une législation plus adaptée à la femme, au couple, à la famille aujourd'hui. Pour moi, il est important pas de dire qu'on va dans une sorte d'avancée, mais qu'on réfléchisse aux conditions des femmes aujourd'hui et de voir quelles sont les attentes des femmes marocaines au Maroc. Quelles sont, elles, leurs attentes? Parce que, de toute façon, il est difficile pour moi de m'ériger en tête penseuse sur la condition féminine au Maroc, ne vivant pas au Maroc. En revanche, je tends l'oreille sur les éléments qui reviennent et sur les revendications légitimes. Et lorsqu'on parle de revendications, on ne parle pas de choses qu'on demande ou qu'on exige. On demande juste des lois qui viennent appuyer et qui viennent un peu sécuriser la femme marocaine dans son identité personnelle, dans son identité plurielle et au sein de sa vie et au sein de sa famille. Parce qu'elle a une place centrale, la femme, et la femme marocaine a encore une place plus centrale. Je trouve que la femme marocaine, elle est dans une forme de socle de vie qui fait qu'elle doit être protégée sur le plan législatif un peu plus qu'ailleurs.
تمام. طيب، هذا الاهتمام بالمرأة المغربية والاهتمام بأصولك وبهويتك وبثقافتك حاضر في كتاباتك. أنا ذكرت واحد من الروايات والذي تحدثت بشكل عام عن الأسرار وأسرار المرأة العالمية، دعينا نسموها هكذا. لك كتاب آخر هو المغرب من ماذا نخاف، فهذا الخوف من ماذا وعن ماذا يحكي هذا الكتاب؟
De quoi avons-nous peur? Oui, j'ai eu la chance d'avoir été sollicitée pour écrire dans le Maroc. De quoi avons-nous peur? Et moi, j'ai choisi la thématique de la femme et de la liberté. Le mot peur, c'est juste pour attirer le lecteur sur une réflexion qu'a voulu Abdelhak Najib et Nourdine Bousfeha, sur une réflexion, une sorte de cartographie de l'état actuel du Maroc et de voir quels sont les éléments sur lesquels le Maroc doit réfléchir et travailler pour amorcer une avancée qu'il a déjà déclenchée. Le Maroc avance à grands pas, économiquement il devient intéressant, socialement il l'a toujours été. Il a donné la parole à différentes personnes, il y a des historiens, il y a des politiciens, il y a des journalistes, il y a des écrivains, il y a vraiment différentes sensibilités. Moi, me concernant, j'ai écrit sur la femme. Une fois de plus, j'ai voulu poser les choses et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur cette histoire de législation. Je me dis qu'il y a une cartographie des femmes à faire aujourd'hui. On a eu Arisha Chena qui a beaucoup travaillé sur les femmes et les jeunes filles mères et les femmes. Elle a laissé son travail, elle a laissé son humanité et je sais que cette femme a laissé aussi des femmes au Maroc qui font très bien et qui avancent dans ce sens. J'ai voulu laisser ma trace d'écriture sur la volonté de nous, des femmes, de continuer à protéger aussi nos enfants, parce que Jachina a travaillé avec des femmes mères, donc là on ne parle plus de femmes, on parle d'enfants. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas fermer à la femme, ni à la femme marocaine, ni à l'humain. Et c'est une thématique qui m'inquiète, qui me préoccupe et sur laquelle j'aimerais encore travailler dessus à l'avenir, c'est-à-dire comment on protège la maternité, comment on protège l'enfant, comment on évite les mariages de mineurs, comment on évite certaines situations, et ça peut être des situations qui sont reculées et rurales, mais c'est aussi des situations de ville citadine où certaines femmes se retrouvent SDF et se retrouvent dans des problématiques qui sont difficiles à gérer. Donc vous voyez, quand on discute, on a sorti un nom parce que c'est elle qui a initié beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'anonymes que je connais qui travaillent sur cette question-là. Alors oui, œuvrer en bas de chez soi, c'est très, très, très important. Et je rends hommage à chacune des femmes qui fait le pas, autour de chez elles pour faire les conditions de la femme et les conditions de l'enfant soient protégées. Mais il est important aussi de se dire qu'il y a des lois auxquelles on peut réfléchir, qui peut-être font avancer les choses. Il n'y a pas longtemps, j'avais été sollicitée par Kalima Echekri. C'est une femme qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, qui avait participé justement au prix René Depestre, et elle était aux assises des féministes des femmes. J'ai vu de près leur travail, c'est un travail formidable, je leur rends hommage, et je vois à quel point le Maroc est un Maroc qui avance.
وهذا ما يصنع تفردكم أنتم الكاتبات والكتاب أيضا، أنكم تسلطون الضوء على أسماء تعمل بصمت، يعملون في الخفاء ويستحقون فعلا أن تسلط عليهم الأضواء لمجهوداتهم في المجتمع ومجهودات عميقة جدا. سأعرج الآن على إنجازاتك الشعرية. ديوان الشعر فرونيزي عن ماذا يتحدث؟ في ترجمة للعربية، أنا حاولت نترجم هذه العربية أو الحكمة إذا ما أردنا الترجمة يعني للمعنى.
En fait, Phronésie, c'est arrivé quand j'ai commencé à l'écrire comme une sorte de continuité du livre que vous avez parlé, c'est-à-dire La révolte des secrets. Phronésie, ça a été édité dans une maison d'édition en France, Mindset. Et c'est vrai que vous avez très bien dit, c'est compliqué de le traduire et vous avez raison parce qu'il ne se traduit pas. C'est un mot grec qui veut dire de la prudence dans de la sagesse. Il vient, une fois de plus, remettre de la précaution dans la vie des gens. C'est un recueil qui a été réfléchi comme une sorte de grossesse, encore pour rendre hommage aux femmes. Les poésies s'articulent autour de la naissance, de l'accouchement, au moment où on enfante, pardon, à la grossesse, à l'accouchement, et une forme de renaissance. Elle a été accompagnée par Ilham Laraqi Al-Omari, qui est une artiste peintre marocaine reconnue. J'ai eu cette chance de travailler avec elle. C'est un travail que j'avais réfléchi en amont. Ces peintures ont accompagné chacun des poèmes, et dans chaque poème, il permet à l'auteur de comprendre que dans chaque épreuve, il y a une résilience, et dans chaque épreuve, nous sommes capables de renaître de nous-mêmes. Et une fois plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on revient sur des thématiques de femmes, on revient sur cette résilience, on revient sur le travail de l'écrivain, qui est, à l'époque, comme vous dites, à la fois lorsqu'on fait des événements, mais à la fois dans l'écriture elle-même, elle permet de dépasser, de permettre à l'auteur de se dépasser de sa condition humaine.
أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الماتع. رشيدة بالقاسم الكاتبة المغربية، شكرا، ومزيد من التألق ومزيد من الإصدارات. شكرا جزيلا لك.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Mon prochain projet sort bientôt. Il sera fait aussi en collaboration avec une très grande dame qui est Nadia Chilaoui, qui est une artiste peintre marocaine qui vit au Maroc. Je suis très heureuse d'avoir cette collaboration. J'ai encore voulu une collaboration de femmes, et encore une collaboration de femmes marocaines vivant au Maroc. C'est quelque chose qui m'habite dans mon travail, et j'espère qu'il plaira aux lecteurs.
السادة المستمعين، شكرا على حسن متابعتكم، وغدا يجمعنا لقاء آخر بأحد شخصيات مغاربة العالم. إلى الملتقى.